Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré aux dégâts de la crise sur notre santé mentale. À l'ordre du jour ce soir, comment prendre en charge les conséquences psychologiques de la crise? Au lendemain du confinement, bien des spécialistes sont intervenus pour mesurer ses effets sur le moral des Français, mais aussi sur les dégâts que cet arrêt brutal dans le rythme de nos vies pouvait avoir sur notre santé mentale. Depuis le 11 mai, il y a eu l'été et un certain oubli de cet état de fait. Pourtant, chez les jeunes, dans les EHPAD, au sein des personnels soignants notamment, les dépressions et autres symptômes se sont développés, n'est-ce pas un oubli du discours public? Nous allons en discuter avec nos trois invités ce soir, avec Franck Bellivier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Vous êtes chef du département de psychiatrie et de médecine addictologique du groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière et Fernand Vidal à Paris. Avec nous également Dorothée de Trégomin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de SOS Amitié Île-de-France. Et avec nous Antoine Pellissolo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, chef du service de psychiatrie sectorisée au CHU Henri Mondor de Créteil. Vous êtes spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs et des troubles anxieux sévères.
Déjà, pendant le confinement, c'était pas simple d'être seul H24 dans un petit appartement à Paris. Je dis pas que c'était plus simple pour les autres, mais le fait d'être tout le temps seul, ça a été très compliqué. Et chez moi, personnellement, ça a carrément révélé des peurs de finir toute seule. Mais là, c'est la goutte d'eau, quoi. Je me dis qu'en fait, la prochaine fois que je pourrais baiser, c'est en 2022, peut-être. On rencontre quand même beaucoup de gens dans les bars. Là, moi, je me vois absolument pas aller me faire un déjeuner le midi avec quelqu'un que je connais pas, avec un masque entre chaque plat, enfin... Et après ce rendez-vous, on fait comment? Pour se quitter, il faut baisser le masque de l'autre pour embrasser quelqu'un. Enfin, c'est même plus rien n'est possible, en fait. Le seul moyen de rencontrer quelqu'un, c'est donc de le rencontrer avant 21h, de rentrer avec, en plus d'être obligé de le garder jusqu'à 6h du matin. Franchement, un peu risqué comme opération.
Un reportage de Yann Gallic de Radio France, une célibataire parisienne. Évidemment, c'est un cas parmi bien d'autres. Ça n'est peut-être pas le cas le plus grave que vous pouvez avoir eu dans vos services, et en particulier vous, Antoine Pellissolo, en tant que psychiatre et chef du service de psychiatrie sectorisée du CHU Henri Mondor de Créteil. Mais néanmoins, cette question qui est posée par cette célibataire, c'est: on est seul et on a peur de finir tout seul.
Oui, bien sûr, on peut dire la solitude, on sait que c'est un facteur majeur de souffrance en temps normal. Et là, évidemment, ce qui est marquant, c'est ce qu'on appelle la rupture du lien social qui est vraiment à l'œuvre depuis le confinement au départ et puis depuis l'épidémie. Parce que une épidémie, ça veut dire s'éloigner des autres, se méfier même parfois des autres. Et c'est une catastrophe sur le plan du lien social. Et on sait que c'est, encore une fois, un déterminant vraiment majeur du bien-être, de la santé psychique, de tout le monde. Donc pour nos malades, oui, mais aussi pour tout le monde. Je crois que vraiment, c'est ça la particularité de ces crises, c'est qu'on est tous exposés.
Dorothée de Trégomin, effectivement, on a dit notre santé, effectivement, parce que c'est la santé de chacun d'entre nous qui peut être concerné par ce qui se passe. En tant que vice-présidente de SOS Amitié Île-de-France, ce type de témoignages, vous les avez au téléphone ou pas du tout?
Effectivement, le thème de la solitude est le thème principal des gens qui nous appellent pour 42% des cas. Ça a explosé pendant le confinement. En deuxième motif, on a la santé psychique, auquel on peut ajouter l'angoisse, la peur de la mort, qui a fait un bond énorme dans les thématiques abordées par les appelants. Mmh. Donc effectivement, le Covid a révélé des angoisses chez le tout venant, puisque c'est le tout venant qui nous appelle.
Le tout venant, ça veut dire que ce ne sont pas simplement les appelants habituels de SOS qui vous appellent, mais ce sont des gens qui n'avaient pas l'habitude de vous appeler et qui d'un seul coup ont pris leur téléphone.
Effectivement, on a eu beaucoup de primo-appelants, des gens qui n'avaient jamais composé le numéro de SOS et qui nous ont appelés depuis le confinement, au cours du confinement.
Franck Bellivier, vous êtes délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Vous vous intéressez aussi à l'addiction, puisque vous êtes chef du département de psychiatrie et de médecine addictologique au groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière et vers Fernand Vidal à Paris. On peut dire que, effectivement, vous avez noté la même chose dans votre propre service?
Alors oui, clairement, la solitude, les profondes modifications des liens sociaux qui ont été imposés par la gestion de la crise pendant le confinement, mais aussi pendant la période de déconfinement et maintenant pendant le couvre-feu, sont des facteurs de plainte qui remontent fréquemment.
Y compris cette question de la relation, y compris sexuelle, effectivement, du fait qu'on a plus l'occasion de rencontrer quiconque d'une certaine façon, à part si on travaille, et tout le monde ne travaille pas, donc on n'a plus tellement l'occasion de rencontrer quelqu'un dans les bars, dans les cafés, dans les restaurants, enfin dans les lieux de sociabilité, dirons-nous.
Alors l'impact sur les relations amoureuses et sexuelles, je n'ai jamais été destinataire, mais le témoignage me paraît assez convaincant. C'est vrai que c'est une belle illustration de ces modifications profondes. Mmh. Je voudrais rajouter au rang des modifications qui ont été connues pendant, enfin, qu'on a connues pendant cette période-là. Il y a bien sûr les contraintes imposées par la gestion de la crise, mais les situations de crise sanitaire, sociale, psychologique, les réactions individuelles et collectives auxquelles on assiste sont globalement diverses. Mais il y a un risque de repli, il y a un risque d'individualisme, il y a un risque d'émergence du chacun pour soi qui est parfois important et qui peut aussi contribuer à modifier ses liens sociaux. Et je crois qu'une manière de réagir à cette situation qui nous est imposée, c'est aussi de promouvoir l'attention à l'autre. Et on a vu des mouvements citoyens, des collectifs citoyens se saisir de cet enjeu qui est.
Vous voulez dire qu'en l'absence de structures déjà existantes, il a pu y avoir à un moment ou à un autre des improvisations qui sont des improvisations bénéfiques. On a entendu dans d'autres secteurs de l'hôpital les soignants dire tout compte fait on a dû improviser par exemple du côté de la réanimation et tout compte fait on a trouvé des solutions là où on ne pensait pas pouvoir en trouver. C'est ce que vous voulez dire, Franck Bellivier?
Alors là, je parlais de quelques exemples que j'ai en tête en population générale, c'est-à-dire chez nos concitoyens. Bien sûr qu'il y a aussi eu beaucoup de résilience, de créativité au sein de l'hôpital qui a dû faire face, alors qu'il était l'hôpital au global était dans une situation de forte tension avant la crise. Pour faire face à cette crise, a été obligé de mobiliser de l'ingéniosité, du créativité pour faire face à cette situation tout à fait inédite.
Alors Antoine Pellissolo, on a pu croire à un moment que il y a eu dans le milieu des soignants une très grande hantise de ce qu'allait arriver avec le confinement. Tout compte fait, on est sorti du confinement et beaucoup des soignants ont dit ça ne s'est pas si mal passé que cela. Et en fait, vous vous apercevez aujourd'hui qu'avec quelques mois de recul, eh bien, il faut peut-être réévaluer ou changer le regard qu'on a porté sur ce moment-là et sur la suite, évidemment.
Alors, vous voulez parler de la psychiatrie en particulier, parce que les soignants de réanimation et des services de Covid, de réanimation, etc., ont quand même beaucoup souffert.
On en a parlé dans cette même émission la semaine dernière, justement.
En psychiatrie, en effet, on a été très inquiets au départ. Les premières semaines, les premiers mois se sont plutôt mieux passés que ce qu'on craignait, notamment parce qu'il y avait quand même moins de malades. Les malades, enfin, les personnes, de manière générale, avaient peur de toute façon de venir à l'hôpital, en plus de tout le reste. Et donc, malheureusement, peut-être, on était moins bien suivis à ce moment-là, donc on était moins débordés que d'habitude. Heureusement, la plupart des patients ont été bien protégés, se sont bien protégés eux-mêmes, et les équipes ont fait un très très gros travail. Et c'est vrai que c'est plutôt après, et dans un deuxième temps, où on a vu plutôt les effets rebonds du fait que...
Une sorte d'effet retard.
Voilà, ces ruptures de soins et cette désespérance, parce que tout est mêlé. Les patients aussi vivent la même chose que nous en termes de perte d'espoir, de perte de lien social. Et donc, leur pathologie, assez souvent, s'est dégradée, souvent de manière insidieuse. On n'avait pas toujours le lien conservé. Et donc, on a vu depuis le mois de juillet, surtout, ça a flambé en juillet-août, beaucoup d'urgences, beaucoup plus que d'habitude. Et là, on est à nouveau dans des sollicitations et dans des situations très difficiles qui se rajoutent aux impératif de soins liés au Covid, maintenant qui revient.
Dorothée Trégomin, quand on est vice-présidente d'SOS Amitié Île-de-France comme vous, on se pose la question, j'imagine, de savoir si on va pouvoir faire face à cet afflux, d'abord dans un premier temps, celui qui vient d'être évoqué, avant l'été, puis pendant l'été, parce que ça continue, et puis maintenant, pendant cette deuxième vague, avec la durée qui est la durée de cette pandémie.
C'est ça la difficulté. Pendant le confinement, on a réussi à prendre 30% des appels en plus parce qu'on a mis en place une solution technique qui a permis d'écouter à distance. Et pardon. Et maintenant, on est en train de... En fait, comme cette pandémie concerne à la fois les appelants et les écoutants, il y a une usure qui s'installe aussi chez les écoutants, de la même façon que chez les soignants. Et c'est ça qui nous inquiète, c'est de rester dans une capacité à s'adapter à une situation inédite sur le long cours.
Franck Bellivier, c'est tout de même une des questions que l'on peut poser. Effectivement, une crise, on sait ce que c'est. Ça peut arriver, se développer, passer son acmé, puis ensuite redescendre assez rapidement, y compris des crises épidémiques. Mais là, cette crise épidémique se caractérise par cette longue durée. On nous dit, avant d'avoir un vaccin, ça sera peut-être un an. Donc, il va falloir gérer sur cette durée très longue. Est-ce que ça participe justement de la différence par rapport à ce qui avait été envisagé au tout départ, vous qui êtes délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la gestion de cette crise, y compris dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, on a inventé au fur et à mesure. Il y a beaucoup de phénomènes que l'on ne comprend pas. On a appris semaine après semaine. On a eu, comme le disait Antoine Pélisseau à l'instant, au sujet des patients de nos files actives en psychiatrie, on a eu au départ très très peur. Pour de nombreuses raisons, finalement le système a fait preuve de beaucoup de courage, de mobilisation, ce qui a permis de préserver ces files actives.
Qu'est-ce qu'on appelle une file active ? Excusez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire.
C'est les personnes qui sont suivies par un secteur de psychiatrie ou par un service de psychiatrie. Donc on a eu au tout départ énormément d'inquiétudes pour plein de raisons. On savait que c'était des personnes vulnérables en général et vis-à-vis de cette infection Covid. Et finalement, il y a eu une forte mobilisation de l'ensemble du système qui a permis de faire qu'on n'a pas eu de drame.
Mais est-ce que justement le fait qu'il n'y ait pas eu de drame, alors qu'il était peut-être attendu entre, ou non pas espéré bien entendu, mais qu'il était, on imaginait qu'il pourrait arriver ce drame, n'a pas fait se détourner les pouvoirs publics vis-à-vis de ce qui se passe en psychiatrie, c'est-à-dire au bout du compte en disant ça s'est pas si mal passé, est-ce qu'il faut mettre autant d'énergie que dans d'autres secteurs de l'hôpital ou de la médecine en général, puisque tout compte fait, eh bien cette épidémie touche toute la population.
Alors, non, il y a une attention spécifique qui a été portée au secteur de la santé mentale et de la psychiatrie, aux personnes avec handicap psychique en général. Il y a une cellule de crise dédiée Covid santé mentale qui a été mise en place, qui d'ailleurs est toujours active, qui suivait les éléments d'inquiétude que nous avions au départ, l'abandon des personnes avec handicap psychique,
l'abandon par les familles, par exemple, c'est ce que vous imaginiez.
L'abandon, c'est le secteur de la santé mentale et de la psychiatrie est prompt à et d'ailleurs il y a des éléments qui peuvent l'indiquer, que c'est pas toujours vu comme une priorité pour les tutelles et pour les décideurs publics. Moi, je peux témoigner qu'au niveau du ministère, le sujet de la santé mentale pendant le confinement et après le confinement, et encore maintenant, est un sujet qui a plutôt bien émergé. Et le fait que vous organisiez cette émission ce soir sur ce thème en témoigne. Et sur les mesures Ségur, nous avons pu obtenir un certain nombre de mesures spécifiques qui concernent le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Donc on a eu de fortes inquiétudes, on continue à suivre ce secteur de près parce qu'on sait que nous avons dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie des personnes très vulnérables, et cette crise qui dure et les phénomènes que nous observons qui ont été signalés par Antoine Pélisseau, à savoir l'émergence de nouveaux cas peut-être un peu plus nombreux que ce qui était attendu, des décompensations de patients qui étaient stabilisés de longue date et que l'on retrouve dans nos filières, l'épuisement des soignants et le manque de personnel sont des facteurs qui contribuent à la pénibilité et de ce fardeau. Donc la gestion dans la durée de cette crise est un sujet de préoccupation au niveau du ministère.
Antoine Pélisseau, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Franck Bellivier, et tout compte fait, ça n'est pas un secteur abandonné de la médecine ces temps-ci?
Alors, abandonné, heureusement, non.
Non, j'imagine, j'exagère un peu.
Non, mais je comprends le propos. Je pense qu'on sera toujours très vigilant sur ce risque-là, parce que, comme je crois que Franck Bellivier le disait lui-même, c'est un secteur qui est jamais prioritaire, hein, dans les bon, pour des bonnes raisons parfois, quand il y a une urgence à sauver des vies, c'est sûr qu'on met le maximum des moyens dans la réanimation, on peut tout à fait le comprendre. Mais il n'y a pas que la réanimation, il y a l'avant et l'après, et c'est clair qu'il faut que les, je dirais que les professionnels de la santé mentale soient très vigilants, et on l'est, on continuera à l'être, pour qu'on n'oublie pas effectivement, alors on n'oublie pas surtout le fait qu'il y a beaucoup de publics différents, et que c'est vrai que les patients qu'on connaît, on les suit, je pense qu'on fait le maximum, mais il y a aussi beaucoup de gens qui apparaissent pas toujours dans les radars et qui vont commencer à aller mal.
Lesquels, par exemple ?
Et ben justement, des personnes qui ne connaissent pas le système. Et c'est souvent un problème que l'on a de tout temps, c'est le manque de compréhension du système de psychiatrie en France, qui est effectivement complexe et pas toujours très bien expliqué. Donc on travaille beaucoup pour que les personnes qui en ont besoin y aient accès. Et ça, c'est un vrai problème en France, c'est en gros l'égalité de l'accès aux soins en général.
Mais c'est le chemin de soins qu'il faut suivre, on ne sait pas forcément par où passer.
Comment être accompagné dans ce chemin-là. Alors bon, il y a des interlocuteurs, mais beaucoup de personnes en souffrance n'osent pas tout simplement ou ne n'ont plus les moyens de faire cette démarche. Donc c'est ça qui m'inquiète, c'est vraiment l'égalité d'accès aux soins partout, avec des publics très variés. Vous avez parlé, alors les publics bon, plus vulnérables, c'est les personnes âgées, c'est les étudiants qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Bon, les soignants, autre population majeure dont il faut s'occuper. Bon, il y a une multiplicité à la fois de lieux et de publics à aider.
Dorothée Trégomin, justement sur ce point, parce que tout compte fait, vous êtes une association, vous n'appartenez pas aux structures habituelles, pourrait-on dire, de soins, comme les soignants qui sont avec nous. Donc vous vous trouvez vous-même confronté peut-être à des problèmes que vous ne mesuriez pas auparavant. Est-ce que ça ne rend pas encore plus difficile votre travail à SOS Amitié, justement ?
En fait, je trouve ça important de parler des séquences psychologiques plutôt que psychiatriques, parce que ceux qui nous appellent, ne sont pas forcément des patients en psychiatrie, c'est des gens comme vous et moi, en fait. Et de fait, ils sont ces personnes-là, comme tout un chacun, mais de façon plus ou moins importante, vont découvrir l'angoisse ou vont accentuer l'angoisse et leur difficulté à être devant l'inconnu. Et c'est important de se dire que on n'est peut-être pas obligé d'attendre qu'il y ait une décompensation ou un passage à l'hôpital psychiatrique pour prendre soin de ces gens. Et ces gens, quand ils nous appellent, c'est pas seulement pour évoquer leur solitude, c'est aussi pour être en lien avec quelqu'un qui va les écouter, les considérer, leur laisser le temps de parler.
Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là, Franck Bellivier, justement, ceux qui ne sont pas directement concernés, comme on le dit, comme vient de le dire Dorothée de Trégomin, par, disons, la psychiatrie telle qu'on la conçoit et qui sont dans un moment très particulier de leur vie, qui les angoisse considérablement. Est-ce que c'est pris en compte, justement, par les secteurs gouvernementaux, par les ministères, que de s'intéresser à ces personnes-là avant la décompensation dont parlait Dorothée de Trégomin ?
Alors, je pense que les cellules, on a vu au cours de cette crise que les cellules d'écoute ont joué un très grand rôle. D'abord, je pense que l'écoute en soi, ça permet de soulager des symptômes difficiles. Ça permet aussi, et c'est un autre aspect important de la coopération qu'il y a eu entre les numéros d'écoute, les différents numéros d'écoute généralistes ou spécialistes, c'est de repérer des situations qui devaient être orientées vers des soins, c'est-à-dire de faire cette médiation vers les soins qui n'est pas spontanée parce que l'accès au système de soins psychiatriques ou de soins psychologiques n'est pas connu de la population générale. Donc je pense que au-delà de l'effet bénéfique de l'écoute par des professionnels formés à l'écoute, le rôle de médiation vers les soins et de conseil a été extrêmement important. Donc nous, au niveau du ministère, nous avons plutôt favorisé ces articulations fonctionnelles entre les différentes cellules d'écoute. Et je dois dire que, ne serait-ce qu'en regardant le nombre d'appels qui ont été gérés pendant la crise, eh bien, je pense qu'on a là un niveau de service rendu qui est important. On n'a pas été capable de recenser l'ensemble des initiatives qui ont été prises en région, parce que les départements, les ARS ont également pris des initiatives pour créer des numéros au service de la population générale. Et donc je pense que globalement, les cellules d'écoute, les cellules d'orientation ont rencontré un grand succès et ont rendu d'immenses services pendant cette crise et je pense encore maintenant.
Vous écoutez Le Temps du Débat, il est 18h40. Comment prendre en charge les conséquences psychologiques de la crise avec Dorothée de Trégomin, Antoine Pellissolo et Franck Bellivier.
Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait.
France Culture.
Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes amis. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.
Le Temps du Débat.
Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux.
Emmanuel Laurentin.
C'était bien. Et c'était bien.
Une figure de la nostalgie avec le bal perdu de Bourvil. Nous sommes en compagnie de Franck Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, Dorothée de Trégomin, vice-présidente de SOS Amitié Île-de-France, et Antoine Pellissolo, psychiatre et chef du service de psychiatrie sectorisé au CHU Henri Mondor de Créteil. Antoine Pellissolo, comment on prend en compte, plus globalement, parce que là on est sur des cas particuliers, le fait que les gens vont mal? C'est-à-dire que nous allons mal, parce que tout compte fait, ça n'est pas si agréable de vivre dans une société telle que nous la connaissons pour l'instant, sans voir de sortie du tunnel. Si on y ajoute en plus la question du terrorisme qui est revenu sur le devant de la scène, ça ne va pas arranger les choses. Comment voit-on ça et comment prend-on ça en compte quand on est comme vous, psychiatre ?
Grande question, c'est vraiment la question majeure. Et je insisterai vraiment sur cette idée que la manière dont on sortira de cette crise, un jour ou l'autre, c'est sûr, mais dans quel état, est vraiment déterminée par la prise en compte de cette dimension psychologique. Vraiment, moi, j'en suis convaincu. Alors, je prêche pour ma chapelle, mais on voit bien que la communication, ne serait-ce que ça, comment on explique les mesures barrières, comment on explique les restrictions, ça s'appuie évidemment sur des facteurs psychologiques qui sont souvent mal pris en compte parce qu'on va vite et que c'est compliqué.
Donc, c'est vraiment. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux déjà pour pouvoir justement que la sortie soit meilleure?
Ben, je crois que chaque étape, chaque décision devrait s'accompagner de manière peut-être un peu plus formelle parce que, bon, le propre de la psychologie, c'est que tout le monde a son avis et tout le monde fait à sa façon. Et donc, il n'y a pas de conseil scientifique organisé sur ces questions-là, alors qu'il y en a sur les autres. Et je ne dis pas qu'il faut le faire, mais que chaque décision devrait être pesée de manière comme ça, le plus possible.
Auprès du ministère de la Santé, auprès des gouvernants, etc.
À tous les niveaux, parce que là, on voit bien, comme vous dites, l'impact, il est général. C'est toute la population. Alors, il y a une part qui, de toute façon, viendra de la population elle-même, et donc des associations surtout. Moi, je suis convaincu que la plupart du travail qui est fait, qui existe déjà et qu'il va falloir développer, c'est l'entraide, tout simplement, entre nous. Il y a des compétences, il y a des savoir-faire et il y a un besoin ressenti et il y a des gens qui sont prêts à le faire. Et donc, il faut vraiment s'appuyer dessus parce que, évidemment, les professionnels spécialistes vont continuer à s'occuper des personnes qui vont mal, qui vont vraiment très mal. Et juste, je ferai un bémol là-dessus, ça peut être n'importe qui, les gens qui vont mal. Il n'y a pas les grands malades d'un côté et puis les gens normaux de l'autre. Vraiment, il faut casser cette barrière-là parce qu'elle n'a aucun sens. Nous, on voit des gens, malheureusement, et récemment c'est le cas, qui allaient très bien et qui vont aux urgences après avoir fait une tentative de suicide qui aurait pu mal terminer. Il y a parfois des suicides qui arrivent comme ça, et sans fondement, en tout cas, de maladie préalable. Donc, ça peut être tout un chacun, ce qui veut dire à la fois la vigilance qu'on doit avoir pour tous les publics, notamment fragiles. Il y a des facteurs de risque individuels qui sont souvent difficiles à cerner. Il y en a, des facteurs économiques, des facteurs de psychopathologie qu'on connaît, mais il y a aussi plein de choses qu'on ne peut pas anticiper. Donc le réseau socio-affectif familial est quand même un petit peu, je pense,
mis à mal,
institutionnel, et doit être activé partout.
Oui, parce que pour l'instant, il est très mis à mal par ce qui se passe, Dorothée de Trégomin.
En vous écoutant, je pensais au fait que c'est une souffrance invisible. Et c'est difficile donc parfois de la considérer.
Parce invisible et souvent indicible aussi, c'est parce qu'on n'ose pas la dire.
L'un étant avec l'autre, donc effectivement, c'est savoir davantage dire sa vulnérabilité, sa fragilité, pour pouvoir être entendu et à ce moment-là être pris en charge.
Ouais, sur ce point, Franck Bélivier, comment prendre en compte l'idée que peut-être toute la population peut être touchée et que toute la population peut aller mal?
Alors, renforcer l'offre de soins dans une période où émergent des demandes supplémentaires, puisque tout ce qui vient d'être dit indique que une offre de soins qui était déjà insuffisante se trouve en tension, encore plus en tension, lorsque des demandes émergent de la population générale. Donc c'est ce que nous nous efforçons de faire. L'engagement du ministère en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie a précédé cette crise. Mais pendant la gestion de cette crise, l'idée qu'il allait falloir renforcer l'offre de soins psychologiques et de soins psychiatriques est au cœur de notre stratégie.
Mais ça, on a bien compris ce que vous nous disiez, Franck Bélivier, du côté du hard, d'une certaine façon, comme on peut dire, du hard et du soft. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire, vous êtes psychiatre, psychologue, spécialiste de chef de département de psychiatrie et de médecine addictologique. Vous avez la possibilité peut-être de passer des messages auprès du ministère de la Santé sur la façon, comme le disait à l'instant même Antoine Pellissolo, de s'adresser à un public conscient. On a souvent dit, voilà, on nous parle comme des enfants, c'est ce qui a été dit. Est-ce qu'on pourrait améliorer, justement pour améliorer la prise en compte, mais aussi la sortie de crise, est-ce qu'on pourrait améliorer le type de message, la façon de s'adresser à une population consciente et adulte?
En tout cas, ça rentre dans la stratégie de déstigmatisation des états de souffrance psychique. Tout ce qui vient d'être dit par Madame de Trégomin et par Antoine Pellissolo est extrêmement important. Les personnes qui connaissent ces états de souffrance psychique sont souvent clandestins. Et les différentes communications qui sont faites par le ministère, mais aussi par les médias, sur la reconnaissance de ces états de souffrance psychique, sur le fait qu'il ne faut pas rester seul, sur l'attention que l'on doit avoir à soi-même et aux autres, sont des éléments de réponse extrêmement importants.
J'ai bien compris ce que vous disiez, mais simplement, est-ce que le ton employé est le bon? Est-ce que la manière de parler aux citoyens est la bonne, d'une certaine façon, pour permettre de tenir debout, d'éviter de se trouver dans une situation psychologique difficile, parce qu'on considère qu'on ne nous parle pas, ou les citoyens, on ne leur parle pas de la bonne manière? Justement, ces consignes, ces gestes barrières, etc., etc.
Alors, je pense que la communication sur les gestes barrières, qui sont contraignants, est une communication qui est à la mesure de l'enjeu. Sur les enjeux psychologiques, j'ai moins l'impression qu'elle fait partie de la communication institutionnelle sur les risques psychologiques encourus pendant le confinement, puis pendant le post-confinement, et maintenant dans ces trois grandes catégories de personnes qui peuvent connaître des états de souffrance psychique, que sont les personnes connues des filières de santé mentale et de psychiatrie, c'est-à-dire les personnes avec handicap psychique, et pour continuer à prendre soin d'eux, d'une part, la population générale qui connaît des états de souffrance psychique, anxiété, dépression, addiction et troubles du sommeil, et enfin les soignants et les personnels administratifs des hôpitaux qui sont aussi soumis à forte tension. À chaque fois, ce sont des réponses spécifiques qui doivent être apportées. Il n'y a pas de réponse univoque pour ces différentes situations qui en réalité recouvrent des réalités très différentes. Je pense que les cellules d'écoute à destination de la population générale et les campagnes d'information qui ont été faites sur ne restez pas seul, veillez à votre hygiène de sommeil, attention aux addictions, sont des éléments de communication du ministère qui ont été très présents et qui sont encore présents.
Antoine Pellissolo, il y a effectivement cela, ce sont les messages qui sont envoyés, mais c'est aussi la rythmique de cette crise. On arrête tout, on redémarre tout. Faites la fête, c'est l'été, prenez des vacances, allez-vous-en. Et puis le retour, c'est le couvre-feu. Tout cela, c'est une rythmique aussi qui est peut-être difficile à envisager pour des gens qui sont dans une santé difficile, et en particulier parce que elle n'est pas prévisible. Ce rythme n'est pas prévisible, il ne correspond pas à nos rythmes de vie habituels.
Absolument, et ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en plus de la solitude, il y a la notion de peur et d'incertitude, et c'est l'autre facteur malheureusement aggravant pour les gens qui sont, un peu tout le monde, mais qui sont inquiets pour l'avenir, et donc le fait de pas pouvoir se projeter vers une direction précise avec éventuellement un tunnel dont on sait qu'il va être long, mais dont on connaît la sortie, c'est vraiment ça le plus difficile. Et aujourd'hui, alors la communication notamment du gouvernement est liée aussi à la réalité de la pandémie.
Bien sûr.
Personne ne pouvait prévoir à l'avance toutes ces séquences, mais je pense qu'il faut, dans cet esprit, je vous disais, de prendre en charge, en compte la dimension psychologique, c'est prendre en compte la peur, tout simplement. La peur, c'est quand même la première chose qui crée du stress et parfois un épuisement psychique, une paralysie psychique, et donc que ça soit la peur de la maladie ou que ça soit la peur de l'avenir, c'est vraiment majeur. Et les conséquences de ça, ça peut être, je crois que Franck Belleville disait en commençant, les antagonismes entre les personnes, et c'est ça qui crée de la souffrance, en plus de la souffrance, parce que c'est la souffrance sociale qui se rajoute à la souffrance individuelle. Donc moi, j'ai pas de recette, comment combattre cette peur et cette anxiété, mais c'est vrai que tous les messages devraient prendre en compte cette dimension.
Oui, Dorothée Trégoma, vous la sentez, cette peur, chez ceux qui appellent SOS Amitié?
Oui, et je perçois souvent que c'est une incompréhension de ce qui leur arrive. C'est-à-dire, il manque du sens. C'est-à-dire dire j'ai peur, c'est une chose. Comprendre mais pourquoi j'ai peur alors que ma vie va bien, alors que je suis bien entourée, et ne pas savoir d'où elle vient. J'ai l'impression que ce dont les gens ont besoin, c'est de donner du sens, d'avoir une explication de d'où provient cette quelque chose qu'ils ne connaissaient pas.
Oui, Franck Bellivier disait tout à l'heure, les populations qui sont peut-être, non pas les plus à risque, mais c'est celles qui sont les plus touchées d'une certaine façon. Chez vous, à cette amitié, c'est qui les personnes les plus touchées? C'est celles qui appellent le plus aujourd'hui, qui sont, disons, le plus mal, et que vous pouvez ressentir par les appels que vous recevez? Est-ce que ce sont les jeunes, comme on disait tout à l'heure? Est-ce que ce sont des soignants qui ne comprennent plus le sens de ce qu'ils font dans un contexte de crise aussi long, etc., etc.
Le panel d'âge est entier, c'est-à-dire que ça va de l'adolescent sur notre plateforme de chat ou le quatrième âge. C'est toute personne nous appelle.
Donc ça touche tout le monde.
Ouais, le point commun souvent, c'est le besoin de se sentir en contact avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'ils évoquent la solitude, mais c'est aussi être en lien et que quelqu'un les écoute et soit dans le ici et maintenant. Notre action, elle est pas du tout thérapeutique.
Bien sûr.
Elle est dans le ici et maintenant, 24 heures sur 24, je peux appeler SOS Amitié et avoir quelqu'un au bout du fil qui me dit « je suis là pour vous ».
Ces populations, vous avez pu les étudier au ministère en tant que délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie pour essayer de comprendre s'il y a plus de jeunes qu'il y en avait auparavant qui sont, comme le disait Antoine Pellissolo, touchés, plus de personnes qui sont dans des EHPAD, etc., qui sont touchées, etc., etc.
Alors, en population générale, on a quelques indicateurs avec des enquêtes assez larges, que ce soit l'enquête Covipref de Santé publique France, que ce soit sur les indicateurs de santé mentale que sont le sommeil, l'anxiété, la dépression, ou que ce soit le compte-rendu EPIPHAR sur les consommations de psychotropes, par exemple, l'étude de pharmacoépidémio des données du système de national de données de santé, ou l'étude Coquelicot. Donc on a des indicateurs assez clairs, certains d'aggravation du sommeil, notamment pendant le confinement, qui se sont améliorés ensuite pendant période de déconfinement, mais qui restent plus de problèmes de sommeil qui sont plus fréquents que d'habitude. L'anxiété, pareil, a été plutôt à la baisse pendant le confinement et puis ensuite plutôt à la hausse, et les consommations de psychotropes qui sont plutôt au-dessus de ce qu'on attendait. Mais à l'intérieur de cette photographie générale, certaines enquêtes ont permis effectivement de repérer certains sous-groupes particulièrement concernés par ces états de souffrance psychique, les femmes, les personnes aux conditions socio-économiques défavorisées, les 18-34 ans inactifs, ou les personnes porteuses d'une maladie chronique qui ont développé une inquiétude, puisque ces personnes-là étaient identifiées comme à risque de développer un Covid grave. Donc oui, on a des indicateurs avec une photographie qui est en réalité assez hétérogène.
Oui, qui correspond à ce que disait tout à l'heure, ce que vous disiez, Antoine Pellissolo, c'est-à-dire tout le monde peut être touché et ça peut évoluer parce que ce qu'on ne sait pas, c'est comment on va en sortir. Donc comment va évoluer cette crise? Peut-être en allant vers le plus grave, on ne le sait pas. Et tout cela, ça participe de cette peur dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, et la peur malheureusement se nourrit parfois de messages contradictoires. Donc je pense que l'essentiel, ça serait d'avoir le plus possible une cohésion quasiment nationale sur ces questions-là.
Et vous pensez qu'elle n'existe pas pour l'instant ?
Elle est très fragile. La cohésion, ça voudrait dire aller tous dans le même sens, l'entraide, la compréhension de l'autre, des choses qui seraient des leçons à tirer de cette crise pour l'avenir, et j'espère que ça sera le cas un jour, de se préparer à une gestion de crise, de se préparer à être résilient ensemble. Bon, alors ça existe.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire les secteurs associatifs, voilà. Les secteurs privés, les secteurs publics, tout cela ensemble pour pouvoir gérer une crise de façon justement liée à la santé mentale.
Ben voilà, parce que ça c'est le cas quand on commence la crise. Je pense au début ça a été évident, il y a eu une réaction d'entraide et puis très vite derrière des déceptions et puis les combats habituels. Bon, faut pas être angélique, les combats existeront toujours, mais ils sont malheureusement amplifiés par tout ce qu'on connaît de débats dans les réseaux sociaux, etc. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit au moins d'accord sur quel est l'objectif. Je pense que c'est d'avancer ensemble.
Franck Bellivier, c'est une pierre dans votre jardin, d'une certaine façon. C'est une perche tendue.
En tout cas, c'est sûr qu'il y a de nombreux enseignements à tirer de
Mais est-ce que le gouvernement les prend en compte, justement ?
Écoutez, en tout cas, moi, j'ai pas tellement de difficultés à placer mes sujets au ministère, mes sujets santé mentale et psychiatrie, et à justement faire remonter ces synthèses et ces enseignements que l'on tire de la crise au travers de soit des enquêtes, soit du suivi assuré par la cellule de crise santé mentale Covid. Et donc, on a des sources d'informations qui permettent quand même d'actualiser la compréhension que l'on a de ce phénomène.
Mais il va y avoir tout de même des problèmes de financement, parce qu'effectivement, si cette crise continue avec une croissance, comme on le voit, du nombre de gens qui vont se retrouver dans des situations difficiles au point de vue psychologique, par exemple, il va falloir avoir des budgets supplémentaires et en obtenir encore plus de la part de la sécurité sociale, la manière de rembourser, etc. Tout cela, ça va rentrer en ligne de compte. Est-ce que vous pensez que vous pouvez appuyer dans ce sens en tant que délégué ministériel, Franck Bellivier ?
En tout cas, des investissements exceptionnels pour l'ensemble du secteur de la santé ont été concédés au travers du Ségur. Il y aura après le Ségur de la santé publique qui va compléter cet ensemble de mesures quand même très importantes, avec plusieurs milliards d'euros qui ont été concédés pour un ensemble de mesures très complètes dans le cadre du Ségur. Donc il y a une prise en compte évidemment à l'intérieur de ces mesures des enjeux en santé mentale et en psychiatrie, donc des investissements. Je crois que les choses sont assez claires sur le fait que ils vont être massifs et le secteur de la santé mentale et de la psychiatrie en bénéficiera.
Dorothée,
je voudrais juste rajouter un
brièvement,
point
allez-y,
sur
oui.
Très brièvement sur ces difficultés qui ont été signalées, la peur, la crise dans la durée, la gestion de l'incertitude. Il faut aussi voir le poids de la crise économique
qui va venir
sur une frange importante de la population.
Et qui est déjà là, d'ailleurs.
Il y a déjà plus de 1 million supplémentaires de personnes qui sont passées sous le seuil de pauvreté. Donc ces facteurs-là contribuent à l'anxiété, à la peur de l'avenir. Et qui sont aussi à prendre en compte et auxquels on aura des réponses.
Merci beaucoup, Franck Bellivier. Un dernier mot, Dorothée de Trégomin. Effectivement, la vague du chômage qui peut arriver d'ici la fin de l'année, massive, 400 000 personnes indemnisées en plus, dit l'UNEDIC, d'ici fin décembre, mais aussi peut-être le terrorisme qui vient de remonter. Tout cela, ça fait des angoisses supplémentaires.
En fait, ce sont des sujets, des contextes d'inquiétude qui viennent alimenter le mal-être de l'individu. Effectivement.
Oui, et sur ce point, Antoine Pellissolo ?
Alors, on n'a pas de recette, mais il y en a quand même une qui nous semble importante, c'est les métiers de la psychologie, notamment les psychologues, qui sont normalement formés et disponibles, et qui, bon, pour des raisons de remboursement, ne sont pas assez disponibles, et je pense que c'est un axe majeur qu'il faut amplifier. Il a déjà été amorcé, mais c'est vraiment essentiel.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Franck Bellivier, Dorothée de Trégomin et Antoine Pellissolo. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Imane Gilles, Mathilde Tonfourcade, Rémi Baille, Hugo Boursier, Jacques Hubert était avec nous à la technique, et Alexandre Manzanares à la réalisation. Dans le temps du débat demain, pour notre rendez-vous mensuel en partenariat avec le journal La Croix, nous poserons la question suivante. Comment réconcilier police et citoyens? Dans 3 minutes, vous retrouverez Maëlys Bessery pour Affaires culturelles. Et ce soir, elle sera en compagnie du cinéaste documentariste Frédéric Wiseman.